Les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Non, parce que je viens de me rendre compte d'un truc, c'est quand même, ça fait un petit moment que je parle. Il doit y avoir des gens choqués, ben non. Vous savez qu'en France, il y a 25% de racistes. 25%, c'est beaucoup, hein. Non, je tiens à le préciser, je n'ai pas les moyens de me priver de 25% de mon public. Je n'ai rien contre les racistes. J'ai moi-même, d'ailleurs, un excellent ami raciste. Et puis dans leurs propos, tout n'est pas faux, hein. Quand ils parlent d'inégalité des races, faites l'expérience. Vous prenez un noir, vous prenez un blanc, vous les mettez dans le métro, à la station Châtelet. Vous leur donnez rendez-vous à la station Charles de Gaulle Étoile. Eh bien, le noir arrivera systématiquement 20 minutes après le blanc. Le noir est plus lent. Plus lent pour présenter ses papiers d'identité au petit contrôle d'étape. Plus lent pour prouver qu'il n'a pas volé le métro dans lequel il circulait. Alors, il y a peut-être une solution, hein? Si on se mélangeait les noirs avec les blancs, les femmes noires couchent avec les hommes blancs, les femmes blanches couchent avec les hommes noirs, mais dans trois générations, on serait tous métis, on serait tous café au lait, on serait tous pareils, tous égaux, tous unis, pour aller péter la gueule à ces salauds chinois!
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur REC 103.7. Et les chemins de traverse hein, pour une émission dédiée à l'humour, l'humour sous tous ses aspects. On est peut-être allé un peu loin avec celui-ci, mais c'est, voilà, c'est pour vous montrer que parfois en humour, il pouvait y avoir, ne pas y avoir plutôt de limites. C'est en tout cas ce que nous allons proposer aujourd'hui à nos invités, avec Héloïse. Héloïse Chambon, bonjour, comment ça va?
Bonjour, ça va super bien, et toi?
Ça va. Première fois dans l'émission, première fois sur une radio?
Première fois sur une radio,
ouais. Oui, il faut un début à tout. Hein.
Complètement.
Et un qui est habitué, c'est Will. Will Penaud.
Bonjour.
Comment vas-tu, Will?
Ah ben, très heureux d'être ici hein, ce matin. Moi, ça me rappelle de bons souvenirs.
Exactement. Il y a combien de temps que tu faisais une émission ici?
Ah ben maintenant, ça doit faire un peu plus de 2 ans, hein, quasiment 3 ans.
Hein, ouais. Et maintenant, tu te lances dans une carrière nationale, internationale, on ne sait pas où sont les limites.
Déjà local, ça serait déjà pas mal.
Exactement, oui. Je suis heureux de vous recevoir hein, pour une émission donc, basée sur l'humour, basée sur les limites un peu de l'humour, parler un peu dans tous les sens. Enfin, on va parler de stand-up. On avait reçu au mois de février dernier hein, vos amis, vos collègues. Il y avait Simon, il y avait Mehdi, il y avait... J'ai oublié le troisième.
Nathan,
voilà, oui, qui avait été les troublions un peu de cette émission. J'avais reçu des appels en me disant il faut continuer, il faut avoir encore du monde. Et bah, on vous reçoit aujourd'hui, les deux suivants, donc du Loco Comedy Club de Poitiers.
Exact.
Tout à fait.
Une association, donc, créée il y a combien de temps?
Il y a maintenant quasiment 2 ans.
Oui, hein, c'est ça, 2020.
Plus d'un an et demi maintenant.
2024.
Vous êtes combien au niveau des humoristes dans cette association?
On est 7. Ah, comme les 7 nains.
Comme les 7 nains, il n'y a pas de Blanche-Neige?
Pas encore.
Pas encore. On attend Blanche-Neige, mais c'est peut-être le public. Hein.
Exactement, c'est une belle philosophie ça.
À qui on essaye de faire avaler la pomme ou autre chose, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un peu le but, hein, amener le public à vous rejoindre, à vous accompagner. Ce n'est pas toujours évident, certainement, hein, de se lancer comme ça devant le public. Il y a des soirs où ça va être plus compliqué que d'autres, je suppose.
Évidemment. Mais oui. Ça fait partie du jeu, en fait. On sait, je pense, non?
Ah oui, non, mais c'est hyper dur, hein, si tu veux aller par là, de se lancer devant les gens. Et surtout que le stand-up, c'est parler de soi.
Ouais.
Donc on va parler vraiment de nous, de nos histoires, etc. Donc on se met un peu à nu devant les gens, quoi. On va raconter des choses qu'on dit pas forcément en temps normal. Donc oui, c'est... Peut-être un peu de courage ou de l'insouciance.
Oui, voilà, peut-être de l'insouciance aussi.
La folie, je sais pas.
Parler de soi, justement, ça tombe bien. On va apprendre à vous connaître avant de commencer. On va commencer, tiens, par plus test avec Héloïse, hein, puisqu'elle est la plus pressée, on va dire. C'est elle qui m'a dit, je veux absolument commencer. Et Héloïse, donc, tu nous viens du nord de la France, je crois.
Eh ben oui, enfin... Nord-Est, plus précisément, nord-est. J'ai fait mes études à Strasbourg.
Ouais. Ah oui, c'est très, 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 très nord-est. Une belle région, un bon secteur. Hein,
magnifique, surtout en cette période de marché de Noël.
C'est ce que j'allais dire. Mon épouse m'a souvent proposé de monter à Strasbourg pour le marché de Noël. J'ai un problème, c'est que j'ai froid, moi. Donc,
c'est mal parti.
C'est mal barré. Ça, puis les icebergs, c'est pas non plus mon truc dans le Grand Nord. Donc. Donc Strasbourg pour des études, je crois, d'architecte.
Exactement, tu es bien renseigné, tout à fait.
J'ai regardé sur les réseaux.
Oui, je suis architecte et je suis arrivée à Poitiers il y a 5 ans. Voilà. Ah, donc je suis dans la région maintenant, je suis une petite bébé Poitevine, peut-être, oui, d'adoption en tout cas.
Et toujours architecte, toujours tu pratiques toujours
Architecte, oui, mais je suis dans un secteur un peu particulier, je fais de la démolition.
Ah, c'est pas mal ça.
Parce que là, on est un peu dans la vibe de la déconstruction et tout ça, même à travers l'humour, et je trouve que le pratiquer au niveau professionnel, au niveau des bâtiments, je trouve que ouais, ça met du sens un peu.
J'ai cru voir une entreprise, un Bouygues ou je sais plus qui. D'ailleurs.
Ça aussi, ouais, ça j'ai aussi. Fait. Ouais.
Ah, c'est fait, c'est
c'était avant.
C'était avant, ouais, d'accord. Donc démolition aujourd'hui sur Poitiers. Qu'est-ce qu'on peut démolir? Je recevrai, tiens, j'en profite, d'ici quelques temps, madame le maire de Poitiers, qui elle s'exerce à essayer de bâtir une ville.
Oui,
on verra avec elle ce qu'il en est, si ça marche ou non. Mais toujours est-il que j'ai eu des nouvelles de son cabinet cette semaine, suite à une émission qu'on a fait la semaine dernière, dans laquelle je me disais qu'il serait intéressant qu'elle réponde un peu au message, et j'ai eu une réponse. Ce qui est très bien, on la recevra certainement, je pense, en janvier, donc pour construire un peu la ville. En démolition, c'est quel secteur actuellement, sur quel endroit, Poitiers?
À Poitiers, on n'est pas trop présent pour l'instant, mais le quartier Gare, il change beaucoup. Il y a beaucoup de démolitions là-bas, et quand vous aurez madame la maire, je pense qu'elle pourra vous parler de tout ce qui est en cours à ce niveau-là.
Si elle revient du train, puisque j'ai vu cette semaine qu'elle était sur les réseaux sociaux, qu'elle prenait le train en direction de Lyon, quartier de la Gare, c'est vrai, c'est là où vous êtes, au niveau de la locomotive?
Eh oui! Super transition.
Ah oui, c'est vrai, mais attends, tout est bossé. T'as l'impression que c'est fait incroyable. Comme ça.
Ah ouais, tout est bossé. Je me lève à 5h du matin tous les samedis, puis je bosse mes textes. Donc oui, du côté de la
locomotive.
La
ouais. Le bar où on est né, c'est la locomotive, et donc c'est la Loco Comedy Club qui a vu ses premiers jours là-bas.
Et c'est à quel endroit, ce Nouvelle Gare? Moi, je m'avoue que j'ai quelques années de plus que vous, 2-3 ans en tout cas, et je me souviens de l'époque, les bars en face de la gare, mais ça a bien dû changer, j'y vais rarement.
C'était le plan B? Je crois.
Avant,
je sais
pas si... c'était le plan B, oui, ouais. Tout à fait.
D'accord.
C'est entre la gare et Porte de Paris.
Ah
en
oui,
fait.
Donc moi j'étais vraiment, oui, c'est vraiment ce qui. C'est en allant vers. Vous n'allez pas connaître. je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. je suis heureux en tout cas de vous retrouver. Donc, venu à Poitiers il y a quelques années, 5 ans, c'est ça?
C'est ça.
Pour des raisons de travail, je suppose, pas, non, pas que.
Par amour. Un truc qui s'appelle l'amour. Et l'amour est. L'amour n'est pas resté. Le travail, lui, oui. Et puis, on va dire que Poitiers m'a adopté comme j'ai adopté Poitiers. C'est une ville où il fait bon vivre.
Eh oui.
Et comme on disait tout à l'heure, il y a un vrai écosystème culturel local. Ah. Et c'est vraiment très chouette de pouvoir tester des trucs à travers la Loco Comedy Club, mais plein d'autres choses également.
Qu'est-ce qui l'a découragé? Qu'est-ce qui l'a fait partir? Parce que j'imagine que...
J'imagine c'est ma thérapie, j'avais pas compris.
Sur ce divan, on va en parler.
J'imagine vas-y. Qu'avoir une amie, une épouse blonde et mignonne, mais blonde, ça n'est pas toujours facile.
Je pense que c'était un problème de caractère. Je suis polonaise en plus d'origine, donc je pense que ça ne marchait pas. Non, il était militaire, il est reparti, et donc c'était compliqué.
Écoutez, je remercie nos amis russes de pousser les Polonais vers la France de plus en plus.
Et nous, on a eu de la chance quand même, parce qu'on a récupéré Héloïse pour le Comedy Club quand même.
Combien de filles justement au Loco Comedy Club?
On en a deux.
Et oui, deux femmes.
Je recevrai la prochaine, donc on va dire en janvier-février peut-être, Lisa.
Avec plaisir.
Lisa, et puis le dernier garçon, jeune homme, s'appelle
Thibaut.
Voilà.
Qui est fondateur.
Fondateur
de... En tout cas, oui, on peut l'appeler un des fondateurs, en tout cas, de l'asso.
Oui, il a été président de la structure et tout. Enfin bref, il fait énormément de choses.
Vous étiez tous les deux à la fondation à l'époque, il y a deux ans et demi?
Non,
on est les deux petits derniers, en fait. Ouais.
D'accord. On m'a donné les deux derniers après. On m'a dit...
peut-être les deux plus sages aussi.
Oui, certainement.
On en reparlera, mais...
Il y a des chances aussi. Tiens, on va parler de toi, Will. Tu es connu, je le disais, au niveau de la radio, hein, puisque tu as fait une émission, une matinale. Tu parlais de quoi à l'époque?
Ah, la matinale, c'était vraiment une époque merveilleuse. Moi, j'ai vraiment apprécié ce moment-là, réveiller les gens avec de la musique, de la bonne humeur, très peu de mauvaises nouvelles. C'était interdit dans la matinale. Enfin, en tout cas, c'était moi ma décision.
Oui, c'est ton genre, c'est un peu le genre de papy aussi qui est
oui,
ton père.
Oui, tout à fait.
Dire.
Tout à fait.
Ah, c'est vraiment la mentalité.
On trahit un secret.
Oui.
Donc, c'était un gros plaisir de faire la matinale durant ces années.
D'accord. Et tu es resté donc combien d'années?
Je suis resté quasiment 4 ans à la radio, parce que j'étais avec l'émission bénévole avec papy autour de chez vous.
Oui,
on était co-animateur. Et c'était une très belle aventure. Et puis après, je suis resté en tant que salarié également pour la matinale.
D'accord. Et tu as voulu partir pour te lancer un peu dans le stand-up à ce moment-là?
Pas le projet à la base. J'avais eu la naissance de mon fils. Donc voilà, je me suis rapproché. Ah oui, c'était quelque chose. Donc je me suis rapproché de lui. Et voilà, maintenant, les choses ont fait que je suis revenu dans la Vienne. Et à l'époque où j'étais ici à la radio, on m'avait un peu forcé la main pour que je monte sur scène. Uh-huh. Je fais un petit coucou à Florian et également à Laurent Roy du théâtre Charles Trenet, qui m'ont un peu mis au pied du mur. Et puis, 5 ans après,
je continue à être sur scène.
Et puis tu étais un homme de défi, hein. J'ai essayé d'avoir Béatrice, hein, à qui tu as lancé un défi il y a quelques années aussi. Hein,
non, c'est elle qui m'a piégé.
Voilà,
attention, on remet l'église au milieu du village. Je ne suis pas responsable de ça, j'aurais jamais décidé de ce défi-là. Je le raconte sur scène également, donc durant une interview. Première fois que je rencontrais Béatrice, on présentait Ballet Time ici à Chevigny, donc que je salue avec tous les danseurs et danseuses. Et on présente l'association, la structure, et elle me lance le défi en plein direct, ici, dans ce studio.
Et les images sont visibles sur Internet, hein. J'ai vu que tu les remettais sur ton site.
Oui, tout à fait.
J'ai essayé d'avoir Béatrice. Elle était aujourd'hui en cours, donc c'était difficile pour elle d'intervenir, sinon elle aurait été très heureuse de le faire. Pas de petite casserole cachée comme ça pour toi, Héloïse?
Pas encore.
Ah oui, on cherchera pour la prochaine.
C'est ça.
As-tu fait de la danse?
Il y a très longtemps, j'ai fait du hip-hop. Je pense que mon prof ne se rappelle pas de moi.
Ça mène à tout, la danse mène à tout. Ça me rappelle qu'il y a quelques temps, puis j'avais reçu Davina. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Enfin, Davina Delors, Véronique et Davina.
D'accord.
Voilà, et Davina, oui. Donc, a fait de la danse, avait une école de danse, a fait des émissions de télé, puisqu'elle avait jusqu'à 8 millions de téléspectateurs. Elle habite aujourd'hui pas très loin à Reims. Et c'est vrai que je l'ai reçue plusieurs fois, et aujourd'hui, elle est moine bouddhiste. Donc, vous voyez, la danse mène à tout, hein, même au stand-up pour vous. Donc,
moi, pour le bouddhisme, j'ai que le physique. Hein. Désolé, je fais pas mieux pour le moment.
Oh, pour le bouddhisme, je sais pas, pour le sumo peut-être.
Ok, d'accord, allez, je quitte cette émission. C'est fini.
Oui, c'est vrai, donc tu faisais la danseuse étoile.
Eh oui, quelle incroyable aventure. Et je danse toujours.
Et tu danses toujours? Oui. Eh ben, écoute, on va reparler juste après. J'ai cherché un titre qui parlait de danseuse étoile, c'est pas évident. J'ai quand même trouvé Étoile des Neiges. Hein, sinon,
Il y a une étoile.
Il y a une étoile dedans, voilà. J'ai trouvé Étoile des Neiges, alors qui était chantée dans les années 80, je crois, par Simon et les Modanais. Et on se retrouve tout de suite après.
Dans un toit perdu des montagnes. Étoile des neiges, au cœur amoureux, c'est fait au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute la vie, j'en fais serment. Hélas, c'est soupirer la bergère. Étoile des neiges, sèche tes beaux yeux, le ciel protège les amoureux. Je pars en voyage, aucun mon retour, à tout jamais plus rien n'empêche notre amour. Et quand refleurir les beaux jours, sa fiancée l'attendait.
Nous sommes toujours sur AOC 103.7 et Les Chemins de Traverse en compagnie d'Héloïse et Will pour cette émission, donc pour parler de stand-up. On parlait à l'instant d'étoiles des neiges, hein, d'étoiles, alors de neige un peu moins, mais d'étoiles en tout cas. Tu as été danseuse étoiles, on disait Will, par pari entre guillemets, par défi.
Tout à fait.
Et tu l'as fait sur tes spectacles, tu t'en es servi? Alors, toujours,
je m'en sers toujours, je parle toujours du défi de la danse classique parce que je raconte les anecdotes de spectacle, parce qu'il m'est arrivé 2-3 petites choses en spectacle avec Béatrice et toute la troupe.
Ouais.
Voilà, j'en dirai pas plus.
Oh, mais... Si, ne te gêne pas pour balancer.
Non, mais voilà, on a eu des scènes un peu compliquées. Ou sinon, durant le défi, je raconte que j'ai dû me mettre en collant pour ce défi. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses sur les collants. Comme par exemple que c'était très extensible.
Ouais.
Déjà, et la deuxième chose, c'est que c'est pas opaque à tous les niveaux. et oui, c'est fou. Hein.
D'accord. Voilà.
Donc c'est là où je me dis que le caleçon rouge ce matin, c'était pas une obligation. Donc non, c'était tout un défi logistique pour...
ne pas oublier de mettre un string dessous les bas, je suppose.
je ne sais pas, j'ai pas essayé. Mais bon, si tu veux nous en parler...
Non, pas du tout, c'est pas... Je fais les émissions radio, pas encore les soirées, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et toi, Héloïse, autant te renvoyer la balle.
Moi, j'ai eu des problèmes de collants, effectivement, aussi. Des hommes qui ont essayé des collants, mais ça, c'est une autre histoire. Et en vrai, c'est une vraie histoire qui m'est arrivée à Strasbourg, figure-toi. mes amis qui m'écoutent se rappelleront de cette histoire. Je rentrais d'une séance de cours et il y a un homme, une cinquantaine d'années, un peu perdu, qui me demande de l'aide. Et moi, je me dis, bon, il peut avoir l'âge de mon père. Bien sûr que je vais lui donner un coup de main. Il dit, écoutez, madame, je suis désolée de vous embêter. J'ai une soirée ce soir et il faut que j'enfile des collants. Est-ce que vous pouvez m'aider? N'importe qui à ce moment-là serait parti. Hein.
Ouais, oui,
moi, non. Moi, non, bien sûr que non. Je me suis dit, il faut que tu vives l'histoire pour la raconter après. Donc ce monsieur me demande de l'aide pour ses collants. Je lui dis, écoutez, c'est pas plus compliqué qu'une paire de chaussettes de ski. Et je lui dis, vous l'enfilez et vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il dit, bon, écoutez, je suis un peu stressée. Est-ce que vous pouvez vérifier après si je m'en suis bien sortie? J'aurais dû partir encore une fois à ce moment-là, mais je suis restée. Et cette personne, du coup, derrière une voiture, enfile son collant et vient vers moi et ouvre son manteau. Il était intégralement nu avec son collant qui est effectivement transparent à certains endroits. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais mince, encore une histoire, Héloïse, qui t'arrive et que tu aurais dû arrêter avant.
Ah oui, c'est sûr. Ça me rappelle une histoire, mais en autostop.
En autostop.
Moi, j'avais une histoire quand même relativement cool. Hein.
Je la raconte comme ça. En autostop, je devais avoir 18-20 ans. J'allais à l'école à Égletons en Corrèze et je m'arrêtais donc à Limoges. Et c'est vrai que je continue après généralement de Limoges à Égletons en stop parce que c'était plus rapide. Pour ceux qui se plaignent aujourd'hui du train pour aller jusqu'à Lyon, ça dure 3h40. Pour aller à Égletons, donc à 230 km, c'était 13 heures de train.
Wow.
Donc je faisais la coupure à Limoges. J'allais ensuite en stop à Égletons. Et je me rappelle d'un jour, en faisant du stop, un gars qui s'arrête à ma hauteur et puis qui me dit je t'emmène. Et le gars avait justement, lui, il n'avait même pas de collant d'ailleurs. Je lui ai dit non, excusez-moi, je suis pas pressé.
Non, mais vas-y, monte, mets-toi à l'aise.
Il y a des rencontres comme ça qui marquent.
Mais oui, apparemment, toi aussi, donc t'avais une histoire à nous raconter de.
Oh, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Oh là là.
Ouais, beaucoup. Non, c'est vrai que il y a beaucoup de rencontres. On parlait, Héloïse, justement, de ça. Au niveau d'une femme, c'est pas un peu plus compliqué quelquefois pour le contact avec les gens? Parce que c'est vrai qu'on se dit, on va se permettre pas mal de choses jusqu'à aller dans le graveleux. On n'oserait pas avec un homme.
Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les femmes peuvent aller dans le graveleux plus facilement que les hommes.
Mais je parle du public qui, lui, va penser que, et ne pas avoir de limite, ne pas avoir de frontières par rapport à ça.
Je pense qu'aujourd'hui, on s'autorise plus de choses. Il y a vraiment une liberté d'expression, notamment des femmes. Et en fait, je trouve plutôt que le public reçoit mieux une femme qui va avoir des propos graveleux qu'un homme. Allez. Je pense qu'aujourd'hui, il y a ce côté peut-être un peu... je sais pas, inattendu peut-être, et on revisite l'humour. Après, c'est aussi une facilité, je trouve, que de parler de Graveleu, parce que justement, on nous attend sur cette scène-là, et moi, je suis tombée dedans, hein. Je pense que j'ai fait des blagues graveleuses, faut être honnête, mais je pense qu'on a aussi d'autres choses à dire, et que c'est un peu une facilité. Vraiment, le stand-up, c'est l'occasion de porter certaines paroles, une voix, en fait, hein, sur scène, et le graveleux, c'est un peu superficiel, il y a des choses un peu plus profondes qu'on peut aborder, et je pense que Will aussi fait ça. On a je pense qu'on se rend compte sur ça, on a, dans l'équipe, on a sept humours différents, mais je pense que on est tous bienveillants, et on a toujours cette autodérision de nous-mêmes qui fait que on offre une part de nous au public pour les faire rire sans se dénigrer de trop, je pense. Et il y a ce côté très bienveillant, good vibes, qu'on arrive à véhiculer systématiquement.
Exactement, parce que c'est vrai que le stand-up, c'est plus, vous parlez de votre vie, plus qu'un humoriste qui, lui, va avoir des sketchs véritablement. Vous, c'est
autodérision, à 100%. Moi, en tout cas, mon style, je pense que Will aussi, t'es sur l'autodérision.
Ah bah complètement, ouais, complètement. Ouais. Ouais. Ouais.
Ça, c'est une quelque chose qui va être compliqué à faire, à apprendre, à maîtriser, parce qu'on peut partir d'un truc très simple et puis aller très loin. Jamais j'aurais pensé, en arrivant tout à l'heure, vous parler de mon autostop, en fait. Donc, à quel moment on doit plus se délimiter?
C'est du matériel comique, en fait. Tout ce qui se passe dans nos vies peut servir à faire des blagues, à faire rire les gens. En fait, tout est une question de narration, de comment on va raconter les choses aux gens, je pense.
L'univers du stand-up, c'est forcément de l'humour. Il n'y a pas des moments un peu plus sensible, on va dire, dans un spectacle, on fait parler.
Si, je peux en parler, moi.
Ouais, complètement. Ouais, ouais.
Ouais, je peux en parler parce que sur scène, je parle de la naissance de mon fils,
oui.
Voilà, qui était une aventure extraordinaire, pas forcément commune, mais extraordinaire. Donc maintenant, j'ai la chance d'avoir le petit Martin dans ma vie. Et d'ailleurs, je fais un gros bisou à tout le monde, que ce soit Miley, Eléa, ses deux grandes sœurs. Et donc, j'ai la chance d'avoir un fils incroyable, mais cette histoire était très particulière. J'en parle sur scène, c'était pas forcément facile au début, parce qu'il faut accepter de l'offrir aux gens, cette histoire, trouver des choses drôles à dire, et il y en avait, mais voilà, faut accepter tout ça, mais toujours avec une pointe d'émotion. Moi, je termine toujours mes passages par une petite phrase pour mon fils, pour dire que voilà, je suis très fier d'être son père et très heureux. Donc c'est la phrase qui accompagne la fin de mes sketchs à chaque fois.
Exactement, c'est ce qu'on oublie souvent de faire, on oublie souvent de s'occuper de ses enfants, et j'en profite, moi, pour dire la même chose, hein, que je l'aime à mon fils, qui actuellement a peut-être quelques petits soucis de santé, mais je l'embrasse par rapport à ça. Voilà,
oui.
Et juste par rapport au fait de découvrir son enfant, moi je me souviens là aussi, on parlait tout à l'heure de Dim Seat, on a montré un extrait, la même chose, hein, il avait un sketch à l'époque qui disait « Moi, mon enfant, je veux pas qu'il évolue, je veux qu'il change ». Bah, c'est la première image que j'ai vue de mon fils quand il est né, quand on me l'a présenté. Je l'ai vu avec sa maman, il venait juste de naître. Il était tout fripé, tout pas beau, en fait, on va dire. Il est toujours, mais c'est le sait, hein, j'ai toujours dit, mais non, à ce moment-là, je me suis dit, moi aussi, il faut qu'on me le change. Trois minutes après, il était magnifique. Puis c'est le bébé le plus adorable depuis. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on a cette façon de voir les choses. Au début, c'est un peu, ça fait peur. On se dit, on n'a pas envie d'être maman, ça va être encore plus compliqué. Tu es maman, Héloïse?
Maman d'un petit chat.
Ah, là, petit chat.
Comment la prunelle de mes yeux. J'ai accouché il y a 9 ans.
Ah oui, c'est un vieux chat, on va dire.
C'est un vieux chat.
Je
ne vais
pas dire
fait.
Une vieille chatte, mais un vieux chat, en tout cas.
Voilà.
Au niveau des spectacles, vous en faites régulièrement maintenant, c'est
Alors oui, on est hyper actifs là pour fin 2025 jusqu'à, enfin même en 2026. On a plusieurs scènes en fait où on se produit aujourd'hui.
D'accord.
Donc la Loco reste notre berceau. On se produit 2 jeudis par mois, le 2e et le 4e jeudi de chaque mois. Et on a une petite scène pour faire du test, du lancement, laboratoire du rire, au
Café du
CDT,
théâtre.
Merci, voilà, c'est ça, Café du Théâtre à Poitiers, pareil, 2 vendredis par mois, pas les mêmes vendredis que les jeudis de la Loco, vous allez arriver à me suivre, j'espère. Voilà, et on essaye de faire des soirées un peu exceptionnelles, exclusives, une fois par mois dans certains endroits, parce qu'on vient tous de coins différents, on a des relations un peu différentes, et Will nous a amené au Levrette Café à Châtellerault.
Au Levrette Café.
Et bah oui, c'est Will.
Voilà, merci.
Le My Beers aussi, voilà. On a chacun nos lieux de prédilection.
C'est pas moi pour la bière.
Merci Nathan.
Merci Nathan.
La Guinguette également. Et puis on fait une collaboration avec le Wallabies à Poitiers.
D'accord.
Donc pareil, c'est une fois par mois. Là, c'est les jeudis. Donc c'est des scènes où on fait venir vraiment du monde à la fois local. Donc on reste les artistes locaux aussi, nous. Mais on fait venir des gens d'un peu partout. Paris, Bordeaux, Saintes, La Rochelle. J'en oublie.
Certainement, oui. Parce que c'est vrai que si un jeune veut se lancer, il vient vous voir, il a
possibilité. Le vendredi, c'est idéal. Alors, il peut venir à la loco, parce que c'est là où il verra la famille et comment ça se passe. Mais le vendredi, au Café du Théâtre, il aura vraiment l'occasion de tester tout ce qu'il veut. Il y a ce côté un peu plus intimiste, peut-être, qu'on avait à l'époque au Caribou, quand on en parlait tout à l'heure avec Will. Le Café du Théâtre, on est vraiment à proximité des gens. Et c'est accessible à tous, en fait, je pense.
Ils arrivent comment ? Je veux dire, un jeune qui décide, vous envoie peut-être une cassette avant une cassette. Vous envoie peut-être
envoyez une gravure. Francis 2025.
Envoyez une gravure et puis n'hésitez pas.
Voilà, peut-être une... quelque chose avant, on va dire. Et puis voilà, vous sélectionnez, comment ça se passe ? C'est vraiment ouvert et on y va avec notre humour, quoi.
Alors c'est vraiment ouvert. Hein. Oui. Voilà, nous, on reçoit des messages sur les réseaux, on nous présente un peu le projet. Et donc, on propose de venir jouer sur notre labo au CDT. Donc à Poitiers, au Café du Théâtre, et donc comme ça ils peuvent tester leurs 3 minutes, leurs 5 minutes, voir si les vannes passent, parce que bon, faire des blagues en conversation comme ça avec des amis, la famille, c'est une chose. Et je peux en parler. Et à côté, monter sur scène, c'en est une autre.
Exactement. On a quelqu'un d'ailleurs qui fait le tour dans le petit salon juste à côté depuis tout à l'heure. Je le vois par la porte. Hein, c'est Papy hein, qui pourrait pratiquement témoigner sur le fait que justement ça commence en famille. Les blagues en famille sont une chose. Vous avez commencé comment à l'époque ? C'est ça ? C'est les repas de famille ? On a tous un tonton hein, qui met l'ambiance dans un repas de famille. C'est un peu ce qui vous arrive vous aussi. C'est lui qui vous a emmené à...
Moi, j'avais pas le tonton drôle. C'était moi. Et mon papa, les blagues de papa. Ah, voilà. Vraiment, ça, c'était les blagues de papa, on a un peu honte quand il les dit. Papa, je t'aime. Hein. Mais il les sort à table et puis tu te dis, bon, c'est une base, et on peut faire mieux, je pense. Et puis, moi, personnellement, je me permets d'embrayer, je laisserai Will répondre après. Dans ma famille, je pense qu'on n'avait pas tous le même langage. J'ai dit que j'étais polonaise, pareil, on parlait pas tous forcément la même langue non plus. Ouais. Donc le rire, c'est fédérateur, mine de rien. Puis faire la bouffonne, c'est un peu facile, ça connecte un peu tout le monde. Et puis, ça permet de prendre un peu du recul sur la vie ou des trucs qui peuvent être un peu compliqués parfois. Donc moi, j'ai commencé en étant la bouffonne de ma famille. Et puis après, je me suis dit, non, c'est trop cool de ce flux d'échanges quand on fait rire les gens, voir les gens qu'on aime rire, sourire. C'est absolument génial. Donc pourquoi pas essayer de le faire sur scène. Je me suis après heurtée à l'exercice de l'écriture, oui. Où je me suis dit, c'est quand même pas si facile que ça. Finalement, faire la marrante avec les potes, c'est une chose, mais monter sur scène, c'est autre chose. Puis il n'y a pas cette proximité comme on est quand on est autour d'un verre ou ce genre de choses. Néanmoins, il y a cette possibilité de porter sa voix et de raconter des choses. Et les gens sont obligés de t'écouter, en fait. En théorie, en tout cas.
En théorie, attention. Entre deux verres de bière, il y a toujours quelqu'un pour écouter. Et toi, Will, donc, pas la rencontre avec le public, mais le départ, en tout cas, les premières expériences, c'est la famille, papa. Oui, parce que lui, il a un peu d'humour, on va dire.
Clairement. Voilà, tout le temps, on a beaucoup rigolé. Hein. Moi, mon enfance a été très joyeuse. Donc, grâce à mon papa, hein, qui m'a fait beaucoup rire, avec qui je partais dans beaucoup de délires. Les repas de famille, j'essayais d'être au plus près de lui, parce que je savais très bien que pendant le repas, ça allait partir dans tous les sens. Et moi, j'allais suivre. Des très belles histoires. On en parlera en off. Mais en tout cas, voilà, des très bons souvenirs là-dessus. Et voilà, à l'école, avec les copains, etc. Plus on grandit, plus on se dit, ouais, franchement... Alors, on amuse un peu la galerie, on aime être le petit clown, le petit bouffon, voilà, on peut le dire. On rigole beaucoup de soi parce que on a des kilos en trop ou autre. Et donc, au bout d'un moment...
Si peu.
Merci, tu te rattrapes de tout à l'heure du sumo. Attention, il essaye de se rattraper. Mais dans le coup, c'est ça, on essaye de faire rire tout le monde. Et on se dit, ça pourrait être sympa sur scène. Moi, je me rappelle à la radio, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le fais un peu comme quoi j'écrivais 2-3 sketchs. Et Florian, de la radio, et également Laurent Roy du théâtre m'ont dit, d'accord, tu joues cet après-midi au théâtre à Chauvigny. Je dis, non, c'est pas possible, j'ai du travail. Ils m'ont dit, t'inquiète, on va te libérer du temps. Et ça s'est pas fait le mercredi en question, ça s'est fait le vendredi matin. J'ai invité 2-3 amis, 2-3 personnes de la famille, et j'ai dû jouer comme ça. Donc ça s'est plutôt bien passé parce que c'était que des proches, donc j'avais des histoires à raconter sur eux, etc., sur moi, je savais que ça allait bien passer. Mais une fois que je suis arrivé vraiment sur scène devant des inconnus, là, faut travailler.
Y aller, ouais,
et c'est plus du tout la même chose.
Et pourtant, moi, je trouve que t'as un bagou, enfin vraiment un charisme quand tu montes sur scène, où on a l'impression que t'as toujours su faire ça, tu vois.
Alors,
voilà, petite confession.
Merci beaucoup. Alors pour la petite histoire, je suis hyper timide.
mais timide, maladif. Hein.
Ça se voit vraiment pas.
Ouais, ouais. Mon père a fait de l'animation de soirée, etc. De temps en temps, quand j'étais jeune, j'allais.
Oui, il a fait
lui.
Mon mariage d'ailleurs.
Ah oui, tu vois. Tu vois, et donc, dans le coup, un jour, il me dit bah, teste le micro, s'il te plaît, je vais vérifier un peu le son dans la salle. J'ai pris le micro, j'ai fait deux mots et j'ai dit jamais je toucherai un micro de ma vie.
Regarde où t'es rendu.
Sa voix, etc. Et j'ai fait de la radio et puis maintenant de la scène et je pourrais passer ma vie sur scène. Je serais le plus heureux du monde.
Exactement. On regardera. Tiens, on va faire une pause musicale. On regardera juste après justement où vous êtes rendu. On va s'intéresser à l'écriture aussi juste après l'écriture des sketchs. On va s'écouter une chanson alors qu'il risque un peu de plomber l'ambiance hein, puisque c'est Héloïse qui me l'a passée.
Merde.
C'est bah, quel bel humour que t'as, Héloïse. Hein.
C'est J'écris de Ben Mazoué et on se retrouve tout de suite après.
J'écris gonflé d'espoir, ou triste comme un dimanche, j'écris quand je veux y croire, ou quand ma bonne étoile flanche, l'essence de mon âme brille, quand je mets des mots sur les émotions qui torpillent mon cœur jusqu'au stylo, j'écris pour expliquer, parce qu'en expliquant j'éteins un malaise qui veut pas me lâcher. Depuis le matin j'écris, tant pis si c'est mauvais, et tant pis si c'est perdu. C'est une question d'équilibre, et c'est pas toujours pour être lu. Le sort est un poème, le destin est un roman, avec la mort comme emblème, pour que chaque moment compte. Pour rendre hommage, j'écris dans mon orage, j'écris pour que tombe sur les pages des mots qui font sécher couler des larmes. Sur nos virages, j'écris, et ton visage, qui n'a pas cessé d'être ma plus belle arme. Pas cessé, même après s'être quitté. Pas cessé, même après s'être quitté, d'être ma plus belle arme. Pas cessé, oh, même après s'être quitté. Pas cessé, même après s'être quitté, d'être ma plus belle arme. À ma mère, à ma femme, à mon gosse, à mes peurs, à mes cris, à ma crasse, à la terre, à la sale, sale sorcière de mon cœur. Quand la vie de tempête imminente agite un drapeau rouge et noir, que le bruit dans ma tête augmente pour le faire taire, bah moi j'en parle. Le sort est un poème, le destin est un roman, avec la mort comme emblème, pour que chaque moment compte. Pour rendre hommage, j'écris dans mon orage, pour que tombe sur les pas des mots qui font sécher couler des larmes. Sur nos virages et ton visage, qu'il n'a pas cessé d'être ma plus belle âme. Pas cessé, même après s'être quitté. Pas cessé, même après s'être quitté, d'être ma plus belle âme. Pas cessé, oh, même après s'être quitté. Pas cessé, même après s'être quitté, d'être ma plus belle âme. Cours, chante, presse ton âme de s'exprimer. Dans ce monde lance des pics, faudra s'en protéger. Dans l'esprit, cours, chante, presse ton âme de s'exprimer. Moi j'aimerais n'avoir qu'à me soucier de rendre hommage, d'écrire dans mon orage, d'écrire pour que tombe sur les pages de ma vie des mots qui font sécher couler des larmes, d'écrire sur nos virages, d'écrire et ton visage me dit qu'il n'a pas cessé d'être ma plus belle arme.
Voilà, ce grand moment de déprime vous êtes offert par Héloïse.
Franchement, merci à vous d'être resté après cette musique. Non, mais c'est une très belle chanson.
Oui, tout à fait.
Qui véhicule des belles émotions, mine de rien, sur le principe d'écriture aussi.
Exactement.
Ah, il a une écriture de dingue.
Ah, non, on est d'accord.
Je suis fou de son écriture.
C'est ça de
Ben Mazoué.
Ah, je pensais que c'était d'Héloïse, puisqu'on veut venir à votre écriture, à vous.
Si, mais je ne l'ai pas encore entendu chanter.
Alors, je ne connaissais pas l'auteur, en fait, le chanteur. C'est la première fois dans ma vie, je pense que je dois l'avoir écouté.
Eh bien, je suis ravie de t'avoir fait découvrir, parce que vraiment, c'est un artiste qui est multi-talent, je pense. Et il fait des podcasts et tout, mais en vrai, il écrit vraiment. Il était médecin de base, tu vois.
Ah bah
quand on parlait de chemin de traverse, là, lui, on a un pas mal quand même, hein, mine de rien.
Tu m'apprends quelque chose.
Bah, je vous le dis, il était médecin, il a fini par être chanteur et compositeur.
Eh bien, écoutez, le jour où je me fais une coloscopie, je passe le disque. Ça me mettra en ambiance.
Toi, oui.
En tout cas, il est très bon dans la musique. Après, je ne sais pas de vos médecins.
On parlait d'écriture, et c'est vrai que c'est vous qui écrivez vos sketchs, entre guillemets. Je ne sais pas si on appelle ça des sketchs, d'ailleurs, puisque c'est votre vie. Ce n'est pas forcément la même définition.
Moi, je les découpe en sketch pour le spectacle. En tout cas, c'est comme ça que je parle. Après, c'est vrai que le stand-up, c'est pas vraiment des sketchs. Hein. C'est une continuité.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais, on raconte une histoire.
L'écriture, c'est quelque chose de très dur.
Ouais.
C'est un exercice, moi, qui est horrible pour moi. Je déteste ça. Et donc, on écrit, on fait une vanne. On fait, ah, mais c'est génial, celle-là. Franchement, si je fais pas l'Olympia avec cette vanne-là, c'est pas possible.
Ouais.
Et tu la refais deux, trois fois. 4-5 fois, et tu fais, en fait, elle est pas drôle du tout. elle est nulle, cette vanne. Et dans le coup, tu te dis, allez, vas-y, on la jette à la poubelle, alors qu'en fait, elle est peut-être très bien. Mais c'est qu'au bout d'un moment, bah, on la ressasse, on la passe un peu dans tous les sens. Et puis, on a pris l'habitude de cette vanne, donc elle nous fait plus forcément rire, mais ça se trouve que le public va adorer.
C'est pour ça,
faut, on m'a toujours conseillé, en tout cas, de tout garder, tous les textes. Et puis après, on voit ce qu'on peut en faire, mais c'est vrai que c'est très dur.
Et t'écris tout seul? Pardon, ah oui, excuse-moi, je te... T'écris tout seul ou pas? Héloïse, micro.
Vous êtes dans le podcast, Héloïse.
Exactement.
j'écris seul. J'ai la chance après de, entre guillemets, faire valider, de travailler mes textes avec Antoine, mon frère, qui est très très important pour moi, qui est très souvent présent. Et donc, lui va déjà me guider sur ce que j'ai écrit. Il va me dire, ouais, c'est plutôt pas mal, ou il va me dire, non, ça, il faut que tu oublies tout de suite. Et puis après, on travaille un peu sur les effets qu'on peut faire sur scène, etc. Et il m'accompagne sur beaucoup de scènes, hein, tu l'as déjà vu plusieurs fois.
Ouais.
Et c'est vraiment la personne derrière, où, dès que je sors de scène, on se met dans un coin, on débriefe vite fait, et je me fais engueuler, ou soit il est très content, ça dépend des soirs, quoi.
C'est ton agent, quoi.
Ouais,
frère.
C'est ça.
Ouais, ouais.
Sauf qu'il gère pas mes dates.
Pas encore.
Sinon, il se fait de l'argent sur mon dos. Antoine, je te retrouverai.
Justement, un spectacle en stand-up ou autre, hein, c'est. Ça, alors, on ne devient pas riche avec ça, je suppose, hein, mais on a un métier à côté, on a une activité où on peut vivre de son art.
On démolit.
Certains démolissent, ouais. D'autres font des aménagements paysagers.
Exactement. Ouais, on y pense pas, mais on est obligé parce que une soirée moyenne, c'est quoi? C'est quelques dizaines, quelques centaines d'euros peut-être de gagner. Pas sûr encore. C'est compliqué. Le public rentre et donne ce qu'il veut, ou c'est des soirées payantes avec billetterie?
Ouais, c'est ça. Après, ça va dépendre des soirées.
Ouais.
Il y a des lieux où on va avoir des billetteries, d'autres lieux où c'est entrée gratuite et sortie au chapeau. Donc après, le chapeau est divisé avec les humoristes qui sont présents sur scène. Nous, après, on a une politique un peu différente. Je sais pas trop si ça se passe dans d'autres comédie clubs, mais il y a des soirées où ça va être vraiment les artistes invités qui vont venir extérieur de Poitiers, vraiment très loin, on va diviser le chapeau. Après, voilà, les chapeaux sont très variables par rapport à la grandeur de la salle, le nombre de personnes, et savoir si les gens sont généreux ou pas, si on a été bon.
Exactement, oui. Oh, c'est pas forcément représentatif du fait d'être bon ou pas.
C'est comme le tips au restaurant, tu vois.
Ouais,
c'est exactement pareil. Hein. Quand t'as été content du service, tu mets un meilleur pourboire. Bah, c'est exactement pareil pour nous.
Et c'est vrai que c'est agréable, ça doit être agréable de monter sur scène la première fois comme ça, et puis de se lancer. Ça doit être il doit y avoir une certaine forme de trac quand même, hein. Ça doit pas être évident, mais ça doit être agréable de se dire, j'ai réussi quand même, quoi.
Complètement.
Surtout quand on vient de l'Est comme toi, ou de l'humour. Et pas non plus représentatif. Non, c'est pas des gens qui ont beaucoup dit. Donc je dis, vu les musiques qu'ils écoutent dans les.
Allez, oui, bim,
se dire, je vais même réussir à faire rire des gens à Poitiers, c'est quand même.
Oui, mais il m'a fallu venir à Poitiers pour me dire, allez, je vais essayer de faire rire les gens quand même. C'est fou. Mais non, la première scène, elle est toujours un petit peu plus challengeante que les autres, je pense. Il y a quand même un défi qu'on s'est fixé avec soi-même, de se dire, je vais monter sur scène, comme disait Will tout à l'heure, je me mets à poil, je vous montre mes émotions. C'est du figuré, hein, bien sûr, on se met à poil en sens figuré.
Suivant la line-up, on va avoir du monde à la prochaine date. Hein.
Voilà, on va recevoir des messages par rapport à ça, on me demandait l'adresse.
On parlait des femmes tout à l'heure.
Je ne serai pas sur la prochaine line-up.
Non, mais vraiment, il y a quelque chose de... il faut se transcender un petit peu pour oser monter sur scène. Et... je pense qu'il y a un peu de trac au début, on est un petit peu... Moi, je sais que je suis un peu frileuse au début, tout le monde me le dit. La première minute, elle est un peu moins authentique qu'une fois que je commence à faire des gestes, des mimes ou ce genre de choses où là, bah, ça y est, je suis partie, on peut plus m'arrêter. Et là, les gens sont embarqués et il y a vraiment mon univers qui s'exprime. Et là, c'est kiffant, vraiment, à ce moment-là. Et même si t'as pas les rires, le contact avec les gens, fait quand même quelque chose. Parce que des fois, tu peux avoir des rires intériorisés. C'est pas toujours une grande exclamation. C'est rare de retourner tous les soirs, toutes les salles. Vraiment. De façon unanime. Et d'ailleurs, on le sait, hein, notre humour est pas là pour faire l'unanimité. Si on arrive à planter des graines ici et là et que des gens sont un peu touchés par notre personnage, qui on est, je trouve qu'on a réussi notre soirée, en vrai.
C'est là où il faut être costaud moralement.
Ouais,
parce que franchement, il y a des soirs où tu vas retourner une salle, voilà, comme tu dis. On va retourner la salle, on va faire là. Je vais percer, c'est bon. Là,
c'est galvanisant de fou.
Ouais, tu sors de scène, tu fais là, j'ai fait le passage, j'étais heureux comme tout. Et le lendemain, tu refais le même passage ailleurs. Et là, tu te prends un four pendant 10 minutes et pas un rire, rien, ou juste des petits sourires. Et là, tu te dis, je suis qu'une merde.
Mais on a le mérite de rester jusqu'au bout. Ce qu'on pourrait se dire, moi, je m'en vais, salut.
Mais moi, j'en ai vu. Ah, j'en ai vu. Hein. Ah, crois-moi, j'ai une vieille histoire de Poitiers. À l'époque, c'était très, très dur.
Ah ouais, c'était compliqué.
On a fait une soirée, c'était à l'époque la Caverne à Poitiers, un ancien comédie club. Et donc on commence la soirée, et on m'avait dit déjà, attention, le public de novembre, c'est un public un peu frileux. C'est une vieille histoire, une vieille rumeur ça. Et on est arrivé et le premier humoriste est passé, on avait des passages de 8 minutes je crois. Et le premier humoriste est passé, au bout de 3 minutes, il voit que ça prend pas, il fait bon bah au revoir. Le deuxième, il oublie son texte. Enfin bref, tout le long, c'était vraiment une galère. Et je passe, moi j'avais un sketch sur la télévision à l'époque, donc je faisais beaucoup d'interactions avec le public. Et je commence à parler des programmes télé et tout. Et je fais, Poitiers, vous regardez quoi à la télé? Et j'ai 35-40 personnes ce soir-là. Pas un bruit. Mais pas un bruit. Hein. Je te dis, mais pas un bruit. Et je fais,
ça, c'est dur.
Ouais. Et je fais, vous avez la télé à Poitiers? Voilà. Le même réaction. Je dis, mais vous savez ce que c'est une télé ou pas? Au bout d'un moment, je me pose.
Aidez-moi!
Et là, pas de réaction. Juste une ou deux personnes au fond et qui faisaient partie de notre équipe qui essayaient de réagir. Et je voyais les autres humoristes qui attendaient leur passage ou qui étaient déjà passés, qui disaient, oh là là, mais dans quel état il va se mettre? Et j'ai fait mes 8 minutes, mais un calvaire. Un chemin de croix.
Tu m'étonnes.
Ah ouais, c'était atroce. Franchement, je le souhaite à personne. Franchement, c'est un vieux souvenir.
Mais ça forge aussi.
Oui,
parce que
c'est
du coup, tu t'as déjà vécu ça. Donc le prochain, tu te dis, ouais, j'ai survécu, donc ça va bien se passer.
Ouais, des fois, j'en ai pris quelques-uns. Et ouais, au bout d'un moment, tu dis, voilà, faut retravailler. C'est moi qui n'ai pas été bon. Le public n'a pas forcément été là ce soir, mais bon.
Ouais, je sais pas lequel dans les trois que j'avais reçu la dernière fois, si c'est Mehdi, Nathan
on va trouver
Simon, on va essayer de jouer. qui m'avait dit justement qui me parlait du public et qui m'avait dit il était passé comme ça un soir avec dans un spectacle et le gars avant lui avait été très très bon. Et le public lui dit, enfin, le gars lui dit dans le public, ça va être dur pour toi. Et là,
le truc qui descend tout de suite.
Et c'est vrai que ça doit être compliqué quelquefois d'affronter ce public là aussi, quoi, ou alors le public qui boit, qui est au bistrot, puis qui discute de son côté, qui lance sa vanne et qui croise pouvoir.
Ah, les interactions non sollicitées du public, on les connaît. C'est pas les meilleures, mais bon, ça fait toujours. On apprend, je pense aussi à ce niveau-là. On apprend à avoir de la répartie aussi. Moi, j'ai eu un mec qui m'a donné son numéro de téléphone portable alors que je demandais pas du tout ça, mais pendant mon sketch.
pendant le sketch,
je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai pas relevé, mais après, je me suis dit sous la douche, j'ai eu plein de réparties qui sont venues d'un coup. Et je me suis dit la prochaine fois, je penserai à ça. Je me dirai en fait non, je suis pas intéressée. Je viens de te dire que j'étais pas intéressée. Je suis célibataire. Et je suis très contente comme ça.
Mais ouais, c'est ça. Et l'interaction et les gens, voilà, alcoolisés en soirée, on en a. Moi, j'ai eu la triste expérience très récemment de jouer mon spectacle à Poitiers, à la Loco, et donc j'avais pas mal...
C'était triste.
Parce que franchement, j'avais beaucoup d'amis qui étaient là présents et j'avais une personne qui était un peu alcoolisée et qui m'a foiré énormément de vannes.
Ah, ouais.
Mais quand je te dis foiré, c'est foiré quoi. Franchement, je lançais une vanne et j'étais presque à la chute, tu vois. Il commençait à applaudir ou à rigoler. Tu fais, mais donc tu stoppes le truc et tu fais, bon, bah celle-là, elle est morte quoi. Et tout le long du spectacle, c'était très dur.
Je suppose. C'est vrai qu'il y a des vannes aussi qui doivent tomber à l'eau. On se lance en public, il y a une vanne qui tombe à l'eau. Ça doit pouvoir arriver. On en parlera juste après la pause musicale, ça tombe bien. C'est Renaud qui nous chante, lui, deux chansons qui tombent à l'eau. Avec ma chanson, on ne l'aura pas plu. Quand elle ne nous plaît pas, on la remet dans notre culotte. On revient tout de suite après.
J'avais écrit une chanson, un vrai tube, un truc en or, avec des paroles en béton, une musique, le genre Milord. C'était pas vraiment mon style, je me suis dit, je vais la placer. Ça devrait pas être difficile, y'a de la demande dans ce métier. Yeah, yeah. J'ai rencontré Capdeviel au bar de l'Apocalypse. Je lui ai dit, écoute ma vieille, ça s'appelle le Cataclypse. Ça raconte l'histoire d'un ange qui est marchand de certitude et qui poignarde dans ce ciel étrange le fantôme des solitudes. Il est pote avec Mary, la vestiaire du crépuscule, où tous les gardiens de la nuit viennent jouer les funambules. Voilà ma chanson, mon pote, si t'en veux pas, pas de malaise, je la remets dans ma culotte. Mais tu sais pas ce que tu perds, ma chanson lui a pas plu. N'en parlons plus. J'ai écrit une autre autre chanson, un truc encore plus super, avec des paroles en béton, avec une musique d'enfer. Mais elle correspondait pas trop à mon image, mon créneau, un peu comme si Dalida chantait Biba Peloula. La la la, j'ai rencontré Lavillier un soir à Geoffroy Guichard dans l'enfer vert immaculé. Je lui ai raconté mon histoire. La chanson se passe à New York, y'a Jimmy qui se fait flinguer par un black au coin d'un bloc, par un flic très singulier. Il était pas vraiment mort, il était blessé seulement. Jimmy, il est vachement fort, il est dealer et on le dit lent. Voilà ma chanson mon pote, si t'en veux pas, pas de problème, je la remets dans ma culotte. Allez va, dis-moi tu l'aimes. Ma chanson lui a pas plu, n'en parlons plus. Dictionnaire de rimes, j'ai travaillé très très tard, j'ai fait une chanson sublime. J'ai chanté à deux trois potes, ils m'ont dit c'est pas pour toi, sûr que ta chanson nous botte, mais un conseil, oublie-la, la la la. Alors j'ai rencontré Cabrel, assis au bord de l'autoroute, je lui ai dit ma chanson s'appelle Sur le chemin de la route. Et c'est l'histoire d'une nonne, amoureuse d'un caillou, dans sa vie y'a plus personne que les marchands et les fous. Elle veut retrouver sa terre, et ses chèvres et ses brebis, fuir le doute et la poussière, et revoir sa Normandie. Voilà ma chanson mon pote, si t'en veux pas, pas de lézard, je la remets dans ma culotte, ou au pire dans ma guitare. Ma chanson lui a pas plu, n'en parlons plus. Alors je me suis dit basta, je fais plus des chansons pour moi. Je m'en suis écrit une aussi sec qui raconte l'histoire d'un mec amoureux de sa mobilette, mais leur amour est impossible. Elle a une clé à molette qui est une jalousie terrible, horrible. À la fin le mec il meurt en mangeant une canette de bière. La mobilette se suicide en se faisant couler du miel. La clé à molette finit en tôle, elle qui se croyait en acier. Et c'est sur cette fin pas drôle que se termine ma chanson paillée. Et si elle vous a pas plu, vous savez où je me la mets. De toute façon elle sera pas foutue, elle sera au chaud bien logée. Parce que maintenant ma culotte, je vais te dire c'est un vrai jukebox. Tu mets 10 balles, t'as 4 chansons, t'en as même une caleçon long.
Nous sommes toujours sur REC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie d'Héloïse et Will pour cette dernière partie de l'émission. Il nous reste une dizaine de minutes, ça passe vite.
Ah oui, pour une première émission, surtout quand Héloïse. On s'amuse.
On parlait tout à l'heure donc de spectacle. Votre pire souvenir tiens, en spectacle, c'est lequel? Je suppose qu'il y en a un forcément. Alors soit c'est le premier, j'espère que non pour vous, soit c'est autre chose.
Ah moi j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Voilà, j'ai eu celui à Poitiers, j'en parlais il y a quelques instants où dans le coup pas de réaction, là c'était très dur. J'étais faire un tremplin du côté de Brive une fois un dimanche après-midi dans une grande salle, elle était immense. La veille, il y avait eu Jal, je crois, l'humoriste Jal qui était venu, il avait rempli 1400 personnes et donc là t'avais 180 personnes dans la salle. Donc tout de suite ça paraît très vide. Moi j'avais mon sketch toujours sur la télévision où j'avais de l'interaction. On m'a enlevé les 10 premiers rangs pour mettre la table des jurys.
D'accord.
Donc j'ai fait là plus d'interaction quoi.
Ah oui.
Et le début du festival, on est derrière la scène et le présentateur monte sur scène qui fait bonjour Brive et t'entends. Tu fais ils sont combien? 180. Waouh, c'est impressionnant. Il fait non, il y a pas assez de bruit. Je ressors et on le refait. D'accord. Bonjour Brive. Je fais waouh, ça va être dur. À chaque fin de sketch, il arrivait et quand il montait sur scène, il faisait et voilà. Donc ça replombait l'ambiance direct. Enfin, c'était juste une tanasse pas possible et on avait 15 minutes de passage. Et les 10 premières minutes, j'avais quoi, 3-4 gamins qui me répondaient. Les 5 dernières minutes, c'était devenu vraiment bouillant. J'avais réussi à les attraper. Mais ouais, les 10 premières minutes, c'était un chemin de croix.
Hein. Et toi, Héloïse, parce que, alors, ton meilleur ou ton pire, hein, comme tu veux, parce que j'ai bien vu que tu étais déprimée par rapport à la chanson que j'écris tout à l'heure. Donc, je ne veux pas te relancer dans quelque chose. Ton pire souvenir, rien que pour le plaisir, ton
pire souvenir. Le pire souvenir, c'est, je pense, et les copains valideront, hein, j'ai eu un trou de mémoire. Oh. Et généralement, j'ai un capital sympathie qui fait que on m'applaudit pour me redonner un peu d'élan, parce que ça m'arrive plusieurs fois. Et là, cette fois-là, il n'y a pas eu le Capital Sympathie. Donc, le Capital Sympathie, c'était Will qui a dit « Non, mais il ne faut pas la laisser tomber. » Donc, il a applaudi et ça m'a relancé. C'était génial. Mais ouais, je pense que moi, c'est mon petit talon d'Achille. C'est les trous de mémoire.
Et ça arrive,
quand vraiment, tu sens que les gens en face de toi, ils subissent ton trou de mémoire, là, tu te sens un petit peu con quand même.
Est-ce que
tu
as un meilleur souvenir?
Oui, bien sûr. Vas-y, dis-moi, ma première scène, je pense, parce qu'il y avait ma psy dans, dans le public.
Et tu l'as fait, t'as vu, m'en suis
sorti. Je lui ai dit, alors, les 5500 euros que j'ai investis depuis le début de la thérapie, t'en as fait quoi?
Tu pourras les mettre dans le chapeau, s'il te plaît.
Partage un petit peu, parce que s'il te plaît, ma névrose alimente quand même beaucoup mes sketchs. Non, je pense que c'était ouais, un de mes meilleurs souvenirs, parce que j'avais aussi une amie qui venait du Canada. C'était de façon complètement random, elle s'est retrouvée au premier rang. Vraiment un truc qui n'arrive jamais que dans les films. Et elle a pleuré, parce qu'elle s'est dit, c'était trop beau de te voir prendre ton envol. Je t'embrasse, Marie, si t'écoutes cette émission.
C'est pas quelquefois compliqué, justement, d'être devant la famille ou devant les amis pour jouer. Ça doit un peu.
Je trouve que c'est plus de pression, moi, perso.
Ouais. J'ai eu la chance de jouer sur le festival de Chauvigny, le One Man Show. On va en reparler dans quelques minutes, hein, j'imagine.
Ouais.
Et j'avais joué mon spectacle complet vu que j'avais gagné le tremplin. J'avais eu cette chance-là. Et j'avais, 200 personnes dans la salle. Une grande chance et beaucoup d'amis, beaucoup de familles. Et une pression de dingue parce qu'ils ont l'habitude de te voir tous les jours ou au repas de famille, etc. Ou quand tu les vois en soirée. Et t'espères être drôle à ces moments-là. Mais là, il faut être vraiment un cran dessus, quoi.
Oui, voilà, parce qu'on est en même temps quelque part un peu jugé, même si c'est amical, on est toujours un peu jugé par la famille. Ils se disent, ouais, t'étais quand même meilleur hier soir.
Ouais, c'est ça. Et moi,
avec deux bières, t'étais quand même meilleur.
C'est ça.
J'ai fait la première partie d'un numéro, j'ai eu cette chance, Pierre Thévenoud qui m'avait dit, de toute façon, quand tu vas faire une scène devant des inconnus, le pire truc qui puisse t'arriver, c'est qu'ils t'oublient. Fais tes proches, par contre, ils vont te le rappeler.
Oui, voilà, ouais. C'est ça, oui.
Et j'ai trouvé ça totalement vrai, et voilà, je pense que c'est vrai. Pour le moment, ça s'est bien passé.
En parlant de scène, justement, tu avais été faire une scène aussi en région parisienne, non?
Oui, j'ai fait plusieurs comédie clubs sur Paris. J'étais au Fridge, à Barbès également, Barbès Comedy Club, qui était une belle expérience. Le Fridge, un peu moins, je peux en parler, je m'en fous. clairement, et j'avais joué mon spectacle à Paris également au Théâtre de l'Aube, donc c'était une belle expérience aussi.
Belle expérience, ça permet d'avoir des rencontres peut-être pas, c'est pas évident, il y a beaucoup de monde là-bas en tout cas.
Et puis c'est compliqué parce que autant les artistes qui sont de Paris peuvent s'exporter en province, ouais, s'ils font de la bonne communication et qui sont présents sur les réseaux, que nous de province pour aller à Paris, tout de suite on a le mur du périph', quoi, clairement. Et donc pour attirer le public, c'est très compliqué.
Et toi, Héloïse, pas encore tentée par la scène parisienne?
Non, je suis un peu frileuse de la scène parisienne, mais sinon, localement, on bouge beaucoup, on a de la chance d'avoir un super réseau, on a d'autres copains dans d'autres villes qui organisent aussi des soirées, donc c'est assez fédérateur, je trouve, le stand-up, en fait. Donc on joue à Sainte, La Rochelle, moi, ça me va pour l'instant.
Globalement, si on parle de l'année 2025, on va passer ensuite à l'agenda pour 2026, savoir ce qui vous attend. 2025, une bonne année pour vous, une année...
Ah, je pense que c'est un vrai shift, mais c'est parce qu'ils nous ont intégrés dans l'équipe, Will et moi. C'est pour ça qu'il y a eu un vrai shift.
Exactement,
dans le...
c'est ça, ce sont eux les meilleurs. Je veux dire, c'est contractuel.
Ah d'accord, oui.
Ouais, bisous les copains.
Ouais, bisous à vous, et vous êtes vraiment les meilleurs. Hein,
c'est ça.
Et donc l'année s'approche lentement. Vous jouez entre les fêtes, non peut-être pas?
Alors la semaine prochaine, il y a un... 3 fois 20 minutes qui va être joué à la Locomédie par 3 artistes de l'équipe. Oui, complètement, il faut venir en fait, mardi soir. Vous aurez Lisa, Mehdi et Nathan, qui vont monter sur scène pour 20 minutes de show, chacun leur tour. Qui c'est qui fait le MC? J'aurais pas dû poser cette question. Ce sera la surprise mardi.
C'est marqué sur la conversation du groupe.
Peut-être pas au moment des fêtes de Noël. J'allais dire au niveau de Noël ou du premier de l'an. Surtout la soirée du premier de l'an, vous jouez pas. Hein, les gens pensent pas forcément à rigoler. Ils pensent plus à fêter et à danser.
Ouais, j'avais une proposition à une époque de faire une soirée le 31. Ouais. Ça s'était pas fait, mais après j'étais un peu frileux sur le fait de faire de l'humour alors que les gens mangent. Ça, c'est vraiment un truc qui nous freine beaucoup. L'extérieur et les gens mangent. Ça,
moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je suivais un disque jockey, pareil, qui avait eu la bonne idée de faire un bal, c'était à l'époque des balles encore, hein, d'aller faire un bal donc le soir du 31. Et on est allé, donc c'était pas très loin d'ici, à Hanoi, du côté de Vivonne et autres. Hein. On est arrivé là-bas et on s'est fait démonter la gueule, quoi, tout simplement. Hein. Il y avait 5-6 motards qui avaient bu, et c'était les seuls clients de la soirée qui sont venus pour boire, et ils n'ont rien trouvé de mieux que servir de punching ball. C'est mon nez qui avait pris à l'époque. Le lendemain, j'avais une petite copine qui m'avait dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la gueule ?» Bah non, je me suis fait...
Dis donc, sympa ta soirée du 31.
J'ai une soirée plus cool pour le 31, je le dis tout de suite.
J'espère que Brouwer sera meilleur. Et puis par contre, l'agenda pour 2026, il y a pas mal de choses, je crois, notamment sur le festival à Chauvigny.
Et oui, on a la chance d'avoir un super festival ici à Chauvigny grâce à Laurent Roy et également toute l'équipe technique et la mairie de Chauvigny. Donc le festival aura lieu, que je reprenne exactement les dates, c'est la page d'avant, donc du 11 au 21 mars. Donc tout le mois de mars, on va profiter quand même de pas mal d'humour sur Chauvigny. Et surtout, on va parler des scènes ouvertes le jeudi 12 mars, ce sera au théâtre. Et on travaille ensemble avec le théâtre et la locomédie pour organiser cette scène ouverte où vous allez pouvoir retrouver des jeunes humoristes.
Comme moi.
Bah oui, c'est ce que j'allais dire, parce que sur la troupe, on est quand même beaucoup à être passé à Chauvigny.
C'est vrai, et moi, ça va être ma première.
Et oui, on est plusieurs à avoir gagné également, parce qu'il y a eu Lisa.
Ils sont super bons, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Ou alors, il n'y a pas beaucoup de concurrence à Chauvigny.
Il y a de la triche.
Les Chauvinois ne sont pas réputés pour leur humour.
On les fait venir d'un peu partout.
Un peu comme les gens de l'Est, c'est pas les
Angers. Non, mais on joue sur cette scène ouverte où on va pouvoir découvrir des jeunes talents, le public va pouvoir voter et le ou la gagnante, peut-être, pourront jouer en première partie, également jouer leur spectacle complet s'ils le souhaitent l'année d'après. Donc c'est un gros tremplin. Moi, c'est là où j'ai eu la chance de jouer mon spectacle.
Où il presque étoile.
Tout à fait. Il y a eu Camille Toby qui est de Poitiers, qui avait gagné la première édition. Moi, j'ai gagné la deuxième édition. On a eu la victoire de Lisa.
Oui, avec
également
extra
de notre
bande,
qui est extraordinaire et qu'on va pouvoir retrouver également début janvier à la Loco.
Tout à fait, une date un mardi soir aussi, parce que du coup, oui, à la Loco, on fait des spectacles les mardis soirs, un mardi soir par mois, histoire de diversifier un petit peu les propositions qu'on fait au public. Et donc, c'est une heure de rire.
Pourquoi le mardi soir? Il y a une raison particulière ou c'est...
C'est la disponibilité du lieu.
Ouais, okay. Je pensais que c'était plus par rapport aux étudiants ou choses comme ça.
Non,
c'est pas... D'ailleurs, au niveau de la clientèle de ces lieux, c'est plus des jeunes ou des gens comme moi qui ont la trentaine bien passée.
Je pense qu'on touche un peu tous les publics, en vrai.
Un peu tout le monde.
Ouais.
C'est un truc de dingue.
C'est assez chouette, d'ailleurs, parce que du coup, quand on a des retours, on a aussi un peu de tout comme retour. Mais on n'a pas de public cible.
D'accord,
c'est ça qui est cool.
Tous les publics, pour tous les humours, puisque vous couvrez, là, on le disait avec les sept nains que vous représentez, vous couvrez tout le panel de l'humour, avec peut-être quelques limites. Il y a des domaines où vous n'allez pas, où vous évitez d'aller. D'ailleurs, j'ai passé un sketch volontairement sur le racisme, on parle de religion, on aurait pu parler de pédophilie, tout ce qu'on veut, mais en humour, il y en a qui le font. Vous, c'est des limites que vous fixez quand même, c'est pas évident.
Disons que comme on est un peu dans le récit de nos propres aventures, moi j'avoue que c'est pas des thématiques que j'aborde encore.
Tu parlais de ténébreuse tout à l'heure.
Moi je parle de mon célibat et j'ai vraiment beaucoup de choses à raconter.
Ah oui,
chacun ses problèmes en fait.
Exactement.
Mais moi personnellement, je m'interdis pas certains sujets. Juste aujourd'hui, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Mais effectivement, on a des styles assez éclectiques et des sujets assez éclectiques dans l'équipe. On parle du racisme, on parle du handicap, on parle de Camille parle de la religion aussi. Enfin, oui, voilà, il y a un peu de tout vraiment. Ouais.
D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. Ça fait une heure qu'on est ensemble.
Je voudrais juste finir sur quelque chose, une date très importante à Chauvigny. C'est le samedi 14 mars. Donc voilà, vous avez la chance de recevoir ici à Chauvigny Nathan Stenbach.
Ah oui, tout à fait.
Qui est un gars extraordinaire.
Un des membres importants. On est tous importants, mais lui, plus particulièrement dans l'équipe.
Moi, je l'aime. J'aime l'appeler mon gitan préféré. Moi, voilà, il
tu connais humour... beaucoup de gitans.
Nathan.
Lui, puis les Gypsy King.
C'est ça. Kenji, vite fait, mais. Oh là là, il va me tuer. Il va me tuer. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Que j'aime énormément toute la troupe parce que c'est vraiment une petite famille. Mais Nathan, j'adore son humour et je suis vraiment pressé de le découvrir sur un spectacle complet.
Eh ben écoute, on essaiera de l'interviewer à ce moment-là. On fera venir les deux derniers des sept nains prochainement, début janvier ou février, en fonction des élections, parce qu'il y en a des élections qui se présentent et je sais qu'on va être obligé de faire. On a déjà des propositions d'émissions politiques, mais après tout, autant en rire aussi, donc il n'y a pas de raison. On va continuer comme ça. La semaine prochaine, avant de se quitter, la semaine prochaine, on fait une émission spéciale Téléthon. J'aurai ici les parrains de l'année dernière, Luc Turlan qui habite Chauvigny avec son épouse ou son amie Véronique Hermouet. J'aurai aussi Frédéric Gersal qui est animateur, ancien animateur, je ne sais plus d'ailleurs, qui est historien en tout cas sur la Vienne. On l'aura par téléphone puisqu'il sera sur l'ensemble de la Vienne pour les animations. J'aurai Marine Moulin aussi, qui a des guides départementales du Téléthon. On essaiera de faire une émission sur le Téléthon, de parler un peu de toute cette expérience. En tout cas, je vous remercie. Merci d'être venu.
Merci à vous. Merci à toi.
Merci à toi, merci à tous les auditeurs, et puis impatient de se retrouver.
Eh bien écoutez, merci, à bientôt, au revoir.
Les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.